Radio ici maintenant 95.2, Didier de Plage comme chaque mardi soir et Alexandre à la régie. Notre invité est donc Marie-Thérèse de Brosse. On a de la chance de l'attraper lors d'un de ses brefs passages à Paris. Elle est une grande reporter dans, sur différents supports et nous avons décidé de, eh bien, de vous la confier et que vous puissiez vous confier à elle assez rapidement. À la différence des autres mardis soirs, vous allez pouvoir intervenir très bientôt, très prochainement. Marie-Thérèse, bonsoir.
Bonsoir, Didier.
Nous avons déjà réalisé une émission il y a de ça quelques années, 20, 22, 23 ans, 24 ans.
Il y a prescription, hein, quand je suis dans
Et on a gardé retrouvé quelques éléments de l'émission précédente, histoire de nous lancer sur le sujet. Alors, il y aura au moins deux sujets ce soir. La parapsie, pour en faire le tour. L'actualité de la parapsychologie aujourd'hui, les travaux de laboratoire.
De plus en plus, oui. Mais enfin, très bien, on peut y aller, oui.
Et puis le phénomène des abductions en deuxième partie, tout en passant un détour vers la Belgique. C'est notre menu.
Absolument, tout à fait d'accord.
Allez, première archive, l'enregistrement des voix sur magnétophone, ce que tout un chacun peut pratiquer ou a pratiqué chez lui. On écoute cette première archive, elle est très courte.
Très étonnant, c'est des phénomènes vocaux, l'expérience, je peux vous parler un petit peu comment ça a débuté, si vous voulez, très brièvement. Hein,
oui,
en 59,
oui.
Un producteur de films suédois, qui s'appelle M. Jürgensen, s'aperçoit que sur des bandes magnétiques, il a des voix qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui a été enregistré. L'expérience se reproduisant, il se met en rapport avec un psychologue letton, le Dr Rodive, et avec des chercheurs à matériel très sophistiqué, ils arrivent à sélectionner 100 000 enregistrements de voix de personnes qui n'étaient pas présentes lors de l'enregistrement. Je précise que ces expériences ont été faites par exemple par des ornithologues qui installaient leur magnétophone en pleine forêt pour enregistrer des colibris, des rossignols, tout ce que vous voulez, et qui ont capté des voix humaines que eux n'entendaient pas. Alors avec tout ce stock de bandes magnétiques, ils ont été voir le professeur Bader, qui dirige l'Institut de psychologie de l'Université de Fribourg-en-Brisgau, où il enseigne officiellement la parapsychologie. Le professeur Binder a appelé le docteur Cagère, qui s'occupe à l'Institut Max Planck de Munich, et avec un matériel encore une fois très compliqué, puisqu'ils ont même utilisé des appareils du Bureau central de technologie télégraphique de Berlin. On a commencé à tester tout ça. Et puis, tant et si bien qu'à la fin, le professeur Binder, qui est pourtant très prudent, a fait une communication où il disait qu'il ne pouvait que reconnaître l'origine paranormale de ces phénomènes. Alors, c'est là où l'histoire commence à se corser, parce que le docteur Rodive décide d'écrire un livre là-dessus, avec un titre superbe, stupéfiante expérience de communication électronique avec les morts. Il soumet ça à un éditeur anglais. L'éditeur anglais, très prudent, lui dit, écoutez, monsieur, c'est très passionnant, mais vous permettez que nous expertisons un petit peu tous ces phénomènes. Alors voilà le banc et l'arrière-blanc de la science et de la parascience en Angleterre, qui commence à vouloir tester ces bandes. On fait venir des spécialistes d'antiparasitage, enfin, c'est absolument extraordinaire, et tout le monde constate que les voix qui parlent sur les bancs ne parlaient pas dans la pièce, qu'elles s'adressaient même directement aux expérimentateurs et aux chercheurs, et que parfois, elles s'adressaient dans des langues que personne ne parlait. Et dans certains cas, on a identifié les voix comme étant celles de personnes disparues. Ce sont des expériences qui ont été reproduites à travers le monde et qui sont à la portée de tout le monde. Et j'aimerais savoir si des auditeurs ont fait ces expériences, c'est-à-dire vous branchez votre magnétophone et vous laissez tourner le piste. Et puis vous la réécoutez. Alors évidemment, ne confondez pas avec le tic-tac de la pendule, ne voulez pas croire que c'est une communication scandée régulièrement. Mais vous avez différents moyens. Vous pouvez soit utiliser votre microphone normal, soit remplacer votre microphone par une diode, ou soit utiliser une radio qui est branchée sur une fréquence intermédiaire. Ça, c'est un peu plus compliqué. Avec un bon magnétophone sensible et un radio, et un micro, c'est à la portée de tout le monde. Si des auditeurs ont capté ce genre de phénomène, ça, j'aimerais beaucoup avoir un témoignage, parce que c'est très passionnant.
Voilà, ça c'est donc un premier extrait, 1978, sur une antenne nationale, Marie-Thérèse de Brosse. C'est un peu dépassé tout ça, c'est un peu loin?
Non, mais vous voyez que ça m'amuse beaucoup de m'entendre, pardon pour cet égotrip, mais il y a en 1978, il y a une époque où personne en France ne parlait de ce genre de phénomène. Alors je voudrais quand même préciser quelques petits points de détail, parce que maintenant le phénomène est beaucoup plus connu. Il est connu notamment sous le nom de transcommunication instrumentale, TCI en abréviation, dont, entre guillemets, le père Brune serait le pape. Ça fait courir beaucoup de monde, et notamment ça fait courir les gens qui sont en souffrance, qui ont vécu un deuil, et qui cherchent à capter une voix de disparu. Et je vous mettrai, évidemment, l'antenne, c'est pas très perceptible, et capter des voix de disparu, entre guillemets. Il est bien évident que ces, entre guillemets, voix ne demandent qu'à être captées. Moi, personnellement, à l'époque, quand j'ai découvert ces phénomènes, grâce au professeur Binder, lequel est mort depuis belle lurette, mais qui était un homme que j'aimais profondément, un type d'une intégrité et qui a vraiment fait beaucoup avancer les choses en matière de parapsychologie, surtout parce qu'il avait un grand souci des retombées que ce type de phénomène pouvait avoir sur la psychologie des gens. Il a notamment vu nombre de ses étudiants qui devenaient réellement dingos en faisant tourner frénétiquement les tables, en s'amusant à brancher leur magnétophone pour capter des voix. Moi, je peux vous dire, par exemple, à l'époque, donc à la fin des années 70, régulièrement, quand je faisais mes méditations, je faisais tourner un magnétophone. Alors, c'est tout à fait intéressant, si ce n'est que c'est un inconvénient épouvantable que tous les gens qui pratiquent la TCI doivent connaître. C'est rien enregistré, mais il faut réécouter. Quand vous faites une méditation d'une heure, bon, très bien, je suis étendu sur mon divan ou en lotus par terre, je m'occupe de rien. Mais vous dire que j'ai envie de réécouter une heure de blanc, c'est pas évident. Seulement, effectivement, on s'aperçoit que sur ce blanc, vous n'avez que le bruit d'un appartement où il n'y a rien. Vous avez de temps en temps, très vaguement, parce que j'ai la chance d'habiter un appartement silencieux, le bruit d'une voiture qui passe, vous n'avez rien. Et puis de temps en temps, vous entendez des bruits. Ces bruits sont plus ou moins clairs. Et effectivement, grâce à l'Institut Max Planck auquel j'avais accès via le professeur Binder, en faisant tourner mes bandes magnétiques à des vitesses différentes ou quelquefois à l'envers, on arrivait à obtenir des voix. Moi, je sais que j'ai beaucoup fait joujou, si je peux dire, avec ça, sans très bien savoir de quoi il s'agissait. Depuis, le phénomène s'est étendu, il s'est fait connaître, notamment chez les spirites, tous les gens qui s'occupent de transcommunication instrumentale, et tous ces gens qui sont en deuil et qui veulent évidemment chacun capter un message de leur fille, de leur fils, de leur père, de leur grand-père qui sont partis dans le dard. Alors, là, tout de suite, je dirais prudence parce que on ne connaît pas, et là je parle lentement pour que ce soit bien clair, on ne connaît pas les possibilités du cerveau qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Alors, aller dire que ce sont des disparus qui vont parler sur les bandes, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, même si la plupart des gens, j'en connais un paquet, même de gens très, très honnêtes, qui vous disent, regardez, c'est ma fille qui a fait ceci, c'est mon fils qui est mort à 8 ans, qui me parle, je peux le reconnaître. Il faut quand même savoir qu'il n'y a pas très longtemps d'ailleurs à Tokyo, un laboratoire a décidé de tester la réalité de ces voix paranormales qui apparaissent sur les bandes magnétiques. Et on a fait l'expérience de façon assez sérieuse, c'est-à-dire au lieu de faire tourner le magnétophone en présence de personnes, on a fait tourner le magnétophone tout seul, dans une pièce complètement isolée, etc. Puis après ça, on est allé relever la bande, et au stupeur, sur la bande, alors qu'il n'y avait personne et qu'il n'y avait pas d'interférence avec des radios possibles, on a très nettement entendu, en japonais, et le verbe s'est fait chair. Alors les japonais, tout de suite les sceptiques, en ont profité pour déduire que ce n'était pas possible, que le verbe s'est fait chair ne peut pas s'imprimer ainsi. Je voudrais quand même préciser que ce phénomène de surimpression sur les supports magnétiques n'affecte pas seulement des bandes électromagnétiques. Ça a commencé avec les magnétophones. Ça, c'est à la portée de n'importe qui de le faire. Ça marche ou ça ne marche pas. C'est pas parce que ça ne marche pas que ça ne marchera jamais. Et c'est pas parce que ça marche de temps en temps que ça marchera toujours, encore une fois. Mais ça marche aussi bien sur les écrans de télévision. On a des cas absolument extraordinaires, et ça a testé, je ne vous raconte pas des légendes. Tout ce que je vous dis, c'est complètement verrouillé, mais je ne vais pas alourdir mon propos par toutes sortes de références. On a des cas de télévision qui n'étaient pas branchés sur l'électricité. Vous voyez ce que ça veut dire? Une télévision qui n'est pas branchée sur l'électricité, par définition, elle ne peut rien recevoir. Et qui diffusait des images. Moi, il m'est arrivé une chose à une époque où je ne connaissais pas suffisamment le dossier. Il se trouvait que j'étais en vacances avec un de mes amis à l'île de Rhodes. Et très bien, et je reviens, et ma mère me dit, tiens, je t'ai vu à l'île de Rhodes. J'ai dit, comment vous m'avez vu à l'île de Rhodes? Oui, oui, tu avais une robe rayée, à l'époque les écrans de télévision étaient en noir et blanc, tu avais une robe rayée horizontale, tu étais sur un petit âne, suivi par ton ami Monsieur X, et tu avais le Vanity Case Vuitton que je t'ai donné.
Rayure lui aussi.
Voilà, non, pas rayure, mais la chose qui est drôle, et je pense que cet ami auquel je fais allusion, je pense, écoute cette histoire en direct à l'antenne. Évidemment, il n'y a pas de caméra de télévision pour nous filmer. Il y a quelquefois des photographes qui prennent des photos pour les vendre aux touristes. Ça devait être dans les années, je ne sais pas, 68, je crois. Or, ma mère était en train tout simplement de coudre dans son salon avec la télévision qui ne donnait rien que la neige, etc. À un moment, elle regarde la télévision, elle me voit. Bon, moi, je ne suis pas morte. Donc, il y a quand même un phénomène bizarre. Alors, donc, ça affecte les télévisions, ça affecte les mails, les ordinateurs, et encore, je suis obligée de donner une expérience personnelle, et moi, je ne donne des expériences personnelles que lorsqu'il y a des témoins, parce que sinon, tout le monde peut raconter n'importe quoi. Je me souviens qu'un jour, j'étais devant mon ordinateur, j'essayais d'écrire un article pour Match, une revue à laquelle je collaborais, puis ça m'embêtait, et je veux changer de logiciel. Et en changeant de logiciel, je veux passer sur un logiciel dessin, j'ai une espèce de blanc qui se passe dans ma tête, dont je n'ai pas conscience. Mais quand je me remets devant mon écran d'ordinateur, je suis toujours dans mon logiciel d'écriture et pas un logiciel de dessin, et je vois la pagination, page 273. Je fais défiler le curseur à droite de mon écran, je suis effaré, je vois qu'il y a effectivement 273 pages de texte écrites. Que, évidemment, je n'avais pas écrit. J'ai fait quand même une bêtise. On ne peut pas lire 273 pages à l'écran, c'est trop fatigant. Donc, j'imprime ce texte pour le lire. Tout à fait intéressant, parce que ce texte m'annonçait vraiment mes aventures dans quelques années. Et entre autres, me disant que j'allais rencontrer une kabbaliste que j'ai rencontrée. Enfin, toute l'histoire serait trop longue à vous raconter. Si ce n'est que j'ai fait une bêtise, c'est-à-dire que ce texte était mal écrit, en ce sens que les mots étaient souvent attachés les uns aux autres. Et j'ai commencé comme une idiote à rétablir l'écriture, c'est-à-dire à couper les mots. Quand il y avait des répétitions, des erreurs de concordance des temps, j'ai commencé à retravailler ce texte sans penser à sauvegarder la version originale, donc j'ai retravaillé sur la version originale. C'était si peu connu que je m'en suis ouverte à un de mes amis psychiatres, et je donne son nom, qui est le docteur Gest, bien connu, et qui m'a dit en rigolant, alors même toi, tu fais du psy avec les ordinateurs. Bon. Il est bien évident que ce n'était pas le moindre mort qui dictait l'ordinateur, que j'étais rentrée dans un état de conscience différent, que c'est mon cerveau, qui avait donné ce nombre d'opérations. et de données qui a quand même changé ma vie, parce que je sais qu'à un moment, j'ai pris un congé de mon journal, je suis partie en Espagne rencontrer cette kabbaliste qui a changé quand même pas mal de choses de ma vie. Je n'aurais jamais rencontré cette femme sans cette aventure. Tout ceci pour mettre un petit peu de jus personnel, entre guillemets, à des phénomènes qui ne sont pas réservés au laboratoire. Bon, maintenant, vous avez toutes sortes de groupes qui font des scies instrumentales, et ce dont je parlais à la fin des années 70 sur France Culture, bon, maintenant, ça s'est tout à fait développé, et c'est quand même très connu. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce sont les disparus qui interviennent.
Bien. Donc, on est toujours dans la parapsie, on va franchir une autre étape avant d'en venir à la vague beige et puis aux abductions. Autre donc archive, autre témoignage des études parapsies en labo.
Un qui, encore une fois, est venu à l'étude des phénomènes paranormaux parce qu'il a constaté des choses qui ne collaient pas avec la physique normale. Alors, évidemment, au début, c'était assez difficile de travailler pour lui avec des médiums, parce qu'il est habitué à travailler avec des corps solides, des corps normaux, etc. Et il a fait toutes sortes d'expériences très intéressantes. Et le professeur Astet, d'abord, contrairement aux expériences qu'a fait, par exemple, Cuissard, etc., qui fait plier des métaux excessivement performants et très durs, Astet a eu une idée très intéressante. Il a choisi des métaux excessivement fragiles et très cassants. Par exemple, il a pris un alliage constitué de bismuth, de cadmium et d'étain. L'échantillon choisi était tellement fragile qu'une simple force de 2 kg suffisait à le briser. Donc le problème était, est-ce qu'un sujet psy, par psychokinèse, peut déformer cet alliage qui normalement doit se briser ? Il est évident que par des procédés mécaniques, on arrive à un pliage de cet alliage si on travaille pendant des heures. Et à ce moment-là, c'est un phénomène bien connu des physiciens qui s'appelle le fuage, c'est-à-dire que le métal se fatigue. Or, un jeune sujet avec lequel le professeur Astet expérimentait a réussi à plier de façon paranormale cet échantillon en moins de 5 minutes. C'est quand même assez troublant. Et je ne fais pas de coca-cola, mais enfin, il y a une autre expérience qu'on connaît beaucoup moins. Là, je reviendrai au professeur Astet, parce que, à vrai dire, on commence à en avoir un petit peu assez de voir les parapsychologues mettre des sujets avec des barres, des jauges extensiométriques, des électrodes sur la tête, toujours pour reproduire les mêmes phénomènes. Bon. Il se passe des phénomènes sauvages, et je crois que celui le plus étonnant que j'ai jamais vu, je l'ai vu chez le professeur Binder. Le professeur Binder, un jour, me montre une assiette de porcelaine complètement tordue. Qu'est-ce que c'est ? Il me montre. Et il m'explique l'histoire suivante. C'est une femme, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'elle est suédoise, qu'elle épousait un Allemand, ou c'est une Allemande qui épousait une Suédoise, peu importe, qui faisait collection de porcelaine. Elle avait une collection de porcelaine de grande valeur. Puis cette femme a des problèmes psychologiques avec son mari. Et qu'est-ce qui se passe ? La collection de porcelaine se tord. Examiné par un laboratoire de la mécanique des corps solides, par l'Institut Max Planck, etc., tous les physiciens sont comme des fous, parce que la porcelaine tordue, on n'a jamais vu ça. Bon, j'étais avec un photographe de match, on a pris des photos, et puis un beau jour, le professeur Binder me téléphone, il me dit, écoutez Marie-Thérèse, j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire. Je suis ravi que cette femme m'ait donné une partie de sa collection qui, en tant que collection, n'a plus de valeur, parce que maintenant, elle se détord, et elle redevient droite. Bon, ça, petit phénomène PK, rarissime, je ne connais pas d'autres exemples de ce genre. Mais le professeur Astet a travaillé avec des enfants. Alors c'est encore une fois avec un protocole qui met les enfants très à l'aise, très décontractés. D'ailleurs, il interrompt les expériences pour leur faire du thé, etc. Et comme il ne savait pas très bien comment faire, il s'est fait fabriquer par ses laboratoires des ballons de la taille à peu près des ballons de verre, de la taille d'un ballon de football, avec une légère ouverture dans laquelle il glissait des trombones. Puis il demandait aux enfants d'essayer de faire ce que vous voulez. Et puis les enfants s'installaient devant le ballon, sans le toucher, et on voyait peu à peu les trombones s'ouvrir, s'épanouir, se tresser, et faire de véritables sculptures abstraites. La collection de ballons du professeur Astet est vraiment spectaculaire. Il appelle ça des scrunchs. Il a fait des expériences avec des barres qui glissaient au fond du ballon. Il était exclu de pouvoir les tordre avec une pince. Mais ce qu'il y a de très intéressant, c'est que les ballons que le professeur Astet stocke, parce qu'ils sont pleins de trombones complètement tressés, au bout d'un certain temps, se fendent tout seuls. Et ils se fendent pourquoi ? Parce que les trombones continuent à travailler et poussent contre les parois du verre. Donc le travail se poursuit en dehors de la présence du médium.
Voilà, Marie-Thérèse de Brosse, c'était donc en 1978 ce témoignage. Où en êtes-vous de votre relation avec des expériences parapsychologiques? Fréquentez toujours le laboratoire?
Encore une fois, ça m'amuse de m'entendre dans ce vieux passé, parce que ça, c'était l'époque où on faisait quand même des grandes expériences. Maintenant, je dois avouer que c'est quand même beaucoup moins intéressant ce qui se passe. Hein. Alors, il y a eu entre-temps quand même les expériences très intéressantes faites par Jean-Pierre Girard de torsion de métaux dans des conditions qu'on ne saurait, dont on ne saurait nier l'authenticité, hein, parce que il était sous la houlette de Crussard et de Bouvez, dans le laboratoire de Péchinet Eugène Kuhlmann, c'est pas exactement ce qu'on appelle un laboratoire de parapsychologie. On sait là-bas un petit peu ce que sont les métaux, et Girard tordait des barres d'alliage excessivement résistants, la U4G, qui est un matériau qui était fabriqué pour le Concorde. Donc, je me dois dire, le matériau du Concorde, ça se tord pas avec une simple clé à molette. Et j'ai fait faire, à l'époque, ça n'avait été fait nulle part d'ailleurs. C'est une expérience qui a été faite dans le laboratoire de Mons, à ma demande, sous la houlette du professeur Dierkens, dans des conditions scientifiques absolument imparables. Jean-Pierre Girard, qui était bardé de jauges de contraintes, etc., a parfaitement déformé le métal. Et si les déformations n'étaient pas toujours visibles de l'extérieur, c'est-à-dire si la barre ne
pliait
proposait pas,
pas
un pliage de 20 degrés ou de 30 degrés, à l'analyse microscopique, on voyait que le métal avait été modifié, ce qui était totalement impossible à réaliser en conditions de laboratoire. Alors maintenant, les sceptiques peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Ce dossier est là, il existe. Non pas que je cherche à faire la promotion de Girard, qui est un personnage un peu particulier, mais il a fait quand même des choses étonnantes. Je suis obligée de dire que maintenant, personnellement, je m'éloigne de plus en plus de la parapsychologie, parce que, tout au moins en France, quand j'ai pas, je suis désolée de voir que rien ne s'y passe. L'Institut Métapsychique ne fait rien, n'a aucun programme de recherche. J'étais abonnée à un moment sur le net à des listes de parapsychologie. Est-ce que je peux vous dire des choses pas très politiquement correctes?
Oui, allons-y.
Je suis ahurie de la sottise, de la bêtise et de l'inculture des intervenants qui pose des questions. Je ne connais rien, est-ce que vous pouvez m'expliquer le sens de ce mot-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me traduire un texte en anglais? Enfin, tout ça, ça se passe à un niveau en dessous du certificat d'études. Bon, moi, je sais que je me suis complètement éloignée de tout ça. Bon, aux États-Unis, il y a un petit peu de choses qui se passent. En France, pour autant que je sache, c'est le désert total. Mais je serais ravie si quelqu'un pouvait me dire le contraire.
D'accord, c'est la situation actuelle. Alors, on va refermer provisoirement la page parapsychologie, en attendant peut-être d'y revenir suite à des appels d'auditeurs ou d'auditrices. Signalons, juste avant de poursuivre, que Marie-Thérèse de Brosse est dans l'axe de la webcam. Vous allez constater vous-même qu'elle est rayonnante.
Mais avec vous, Didier, comment ne pas l'être?
Parce que moi, je ne suis pas sur la webcam, et c'est tant mieux pour vous. Donc, après cette page, je vais vite retourner sur la parapsychologie, aujourd'hui un peu désespérante, nous dit Marie-Thérèse de Brosse. Évoquons cette vague belge d'OVNI. Passons directement aux OVNI.
Alors ça, c'est une affaire qui me tient très particulièrement à cœur, non pas parce qu'il se trouve, j'ai beaucoup de chance dans l'existence, que j'ai joué un rôle important, mais c'est parce que c'est sans doute l'affaire la plus importante de l'ufologie. Alors, on rappelle très, très brièvement les faits. À partir de 89, il y a une vague d'ovnis ahurissante sur la Belgique, et il y a des milliers et des milliers de témoignages qui se multiplient, qui ne sont pas faits par des simples témoins, qui sont faits aussi bien par des gendarmes, etc. On voit des triangles qui surveillent le ciel. Et j'apprends par la presse que 15 jours avant Pâques, c'était donc en 90, donc ça devait être au début du mois de mars 90, l'armée belge décide de faire une gigantesque chasse à l'OVNI. C'est quand même sidérant. C'est-à-dire que l'armée met à la disposition d'une petite association ufologique belge qui s'appelle la SOBEB, cette petite association qui travaille quand même très sérieusement et très intelligemment, mais met à leur disposition un bombardier avec un matos très sophistiqué, de caméras infrarouges, etc., et fait un gigantesque appel à témoins pour tout le territoire. Et au retour de ce week-end pascal de chasse à l'OVNI, résultat, niette, bredouille. L'OVNI n'était pas au rendez-vous. Tout ça, je trouve ça excessivement bizarre, mais je garde ça dans un coin de ma tête. Bon, ben, les Belges, très bien. Et puis, je reçois un coup de fil de mon ami Jean-Pierre Petit, qui me dit, écoutez, Marie-Thérèse, il se passe quand même des choses bizarres en Belgique. Vous devriez essayer d'aller voir ce qui se passe auprès de l'armée. Je dis, vous savez, l'armée, hein, c'est la grande muette, l'armée ne dira rien. Essayez. Presque sûr que je n'aurai aucun résultat, je prends, c'était ma grande technique quand je veux toujours travailler sur des sujets dont je n'étais pas sûr mais que je tenais à faire, je prends un congé sans solde de match et je vais donc en Belgique. J'avais au préalable demandé un entretien avec le colonel de Brouwer, qui est devenu général depuis, qui dirigeait les forces aériennes belges, parce qu'il est exclu de pouvoir s'entretenir en tant que journaliste avec un militaire sans qu'il ait l'aval du ministère des Armées. Ma grande stupeur, j'ai l'aval du ministère des Armées qui accepte de me recevoir. Et donc, arrivant au QG des forces armées belges, j'avais amené non pas un photographe de match, parce que je ne voulais pas avoir de fuite, puis je me suis dit, si j'ai rien, je ne veux pas être ridiculisé. J'avais amené mon filleul, qui est photographe, et que j'aime beaucoup, Christian. Je lui ai dit, écoute, tu viens avec moi, on ne sait jamais, j'aurais peut-être besoin d'un photographe. Et nous arrivons au QG. Et là, je suis reçu par le plus délicieux des êtres, le général de Brouwer, qui est vraiment, moi j'aime bien dire, c'est une figure du cinéma. C'est tout à fait comme on imaginerait un major de l'air des armées américaines, le regard bleu d'acier. Il est peut-être un peu plus petit que ne serait un officier américain, mais avec un charme, une courtoisie, etc. Et il commence à me raconter quelque chose dont je ne me doutais absolument pas, parce que je lui ai dit en termes plus polis, mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris de déclencher cette chasse à l'OVNI avec un bombardier. Et il me dit, mais écoutez, voilà ce qui nous est arrivé. Le 30, moi, j'étais au QG de l'armée belge le 22 juin 90. Il me dit, voilà ce qui est arrivé. Dans la nuit du 30 mars, nous avons eu pléiade, comme d'habitude, de témoignages ovnis qui nous venaient non seulement de privés, de militaires. Il y a tout un long rapport très circonstancié d'un gendarme qui s'appelle M. Pinson, mais ce qui nous intéressait beaucoup plus, c'est que ces ovnis étaient captés par nos radars. Le radar de Glon, qui est au sud-est de Bruxelles, le radar de Semerzac. Ces radars ont une portée à peu près de 300 km, hein. Le territoire belge n'est quand même pas très grand. Et le radar de défense de l'Europe. Alors évidemment, très prudent, parce que chez les militaires, on n'est quand même pas des affolés de la soucoupe volante. On fait toutes les vérifications possibles pour savoir si ce ne sont pas des erreurs dues à une aversion météo. Enfin, je vous la passe pour ne pas vous en parler pendant 1000 ans. Et quand on s'aperçoit que non, il y a bel et bien un objet qui survole le territoire belge, Brouwer donne l'ordre à deux F-16 de décoller pour poursuivre l'OVNI. Il faut savoir que, n'est-ce pas, tous les territoires ont des pilotes de chasse qui sont en stand-by 24 heures sur 24 au cas où il se passe quelque chose. Je voudrais vous dire que ces pilotes sont sélectionnés, ce sont des militaires, parce qu'ils ont un psychisme costaud, solide, ils ne vont pas s'affoler. D'habitude, ces pilotes sont merde, comme des rats morts, parce que qu'est-ce qu'ils ont à faire comme mission, une mission de routine, parce que un avion sort d'un corridor aérien, il y a un petit trafiquant de drogue, etc. Là, j'aimerais vous dire qu'un pilote militaire à qui on dit, ben, vous allez essayer de nous suivre, d'intercepter un OVNI, ils sont excessivement motivés. Et nous avons donc là deux pilotes qui décollent avec leur F-16. Alors, il faut savoir, n'est-ce pas, que ces F-16 sont dotés de missiles autodirecteurs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont
verrouillé la cible,
c'est ça, fait le lock-on sur leur cible, même si l'objet ciblé s'échappe, il suffit de déclencher le missile, ou que ce soit l'objet, le missile va le rattraper. C'est quand même, nous vivons une époque complètement grisante. Alors, les missiles décollent, à l'époque...
Non, les missiles ne décollent pas encore.
Je veux dire, les deux F-16 décollent, et à l'époque, à ce moment-là, l'objet volait à une vitesse, je dirais presque de tondeuse à gazon du LM, 50 km/h. Ce qui est nettement pas assez rapide pour un F-16. Vous savez qu'un F-16, il n'a pas une certaine vitesse.
Il décroche.
Il décroche. Mais l'objet a la gentillesse d'accélérer pour que les deux F-16 puissent le suivre. Et ce qui est formidable, c'est que non seulement les pilotes voient le F-16 sur leur radar, mais ils le voient avec les yeux, et que vous avez les témoins au sol qui voient l'OVNI avec les F-16 qu'ils poursuivent. Et là, on assiste à quelque chose qui est sans précédent dans la chasse à l'OVNI, c'est-à-dire que les F-16, l'OVNI va passer à une vitesse de 280 km/h, ok. Mais il va passer de 3000 mètres d'altitude à 1700 mètres d'altitude. Et il va passer à une vitesse de 1800 km/h en moins de 2 secondes, ce qui correspond à une accélération de 40 G. On considère qu'un pilote humain, par définition, ne supporte que 8 G. Si l'accélération est trop forte, vous avez la cage thoracique complètement enfoncée,
le voile noir,
les yeux qui sortent de la tête, etc. Et l'OVNI passe à 200 mètres d'altitude, c'est-à-dire, ce que c'est que 200 mètres, c'est rien. Au ras des toits de Bruxelles, donc il franchit le mur du son au ras des toits de Bruxelles, sans faire de bang supersonique et sans briser toutes les vitres de Bruxelles. Les F-16, bien sûr, ayant verrouillé la cible, appellent tout de suite la base, en disant qu'est-ce qu'on fait, on tire. Évidemment, le colonel de Brouwer, il dit, pas question, on ne tire pas, on ne tire pas sur un OVNI. Bon. L'OVNI leur échappe, ralentit, est rattrapé, etc. Bon. Et quand le colonel de Brouwer me dit ça, il me dit, est-ce que ça vous intéresse de... regardez la boîte noire. Ah, je lui dis, écoutez, moi, ça m'intéresse d'autant plus que moi, je suis pilote privé, mais enfin, j'ai pas l'habitude d'une boîte noire de F-16, mais je veux bien, et je fais évidemment signe à mon filleul, je dis, viens, on ne sait jamais. Et j'ai la chance.
Son appareil photo.
Et oui, et j'ai la chance d'assister, ça les Belges ne l'ont jamais pardonné, pour la première fois, quelqu'un d'autre que l'armée voyait la boîte noire et le moment pile de l'interception de l'OVNI par les F-16. Photos que, évidemment, mon fils a pris, qui ont été publiées dans le monde entier, et ça a fait un véritable drame, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, j'arrive avec ce scoop qui est une vraie bombe dans ma poche, pour la première fois l'armée parle, et je vais voir le directeur de match, et je lui dis, écoutez, moi j'ai un bébé extravagant à vous filer. Et Roger Théron, qui est mort récemment, me dit, mais c'est vrai, c'est une véritable bombe. Personne au journal ne doit le savoir. Alors ça, c'est une petite parenthèse pour les lecteurs qui ne se doutent absolument pas comment ça se passe dans l'univers de la presse. Il faut faire très attention parce qu'un papier ne passe pas directement de l'ordinateur de celui qui l'écrit. En plus, à l'époque, à Mac, j'étais la seule à avoir un ordinateur. Tout le monde disait, mais tu es une folle, les ordinateurs, ça ne marcherait pas, tu aimes les gadgets, etc. On a vu ce que c'est devenu. Il fallait passer par le secrétariat d'action. Et il y avait toujours des gens qui pouvaient passer, dans le secrétariat de réaction, lire un papier et téléphoner à un journal et vendre l'information avant. Donc Roger Théron me dit, pas question que qui que ce soit le sache, il fait venir quelqu'un de spécial, et le journal est entièrement modifié, parce que ça fait 4 pages, et la couverture, sans que personne, pas même le rédacteur en chef du journal, ne le sache. C'était le secret total. Lorsque le journal sort, évidemment, le rédacteur en chef n'est pas très content. Il m'appelle, il me dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit? Bon, ça ne me regardait pas. La presse belge, un truc énorme. Nous avons enfin l'explication de cette chasse à l'OVNI, etc. Et c'est un journal français, Paris Match, qui le sort et pas nous. Les Belges me l'ont si peu pardonné que dans les 2 énormes livres qu'a sorti la SOBEB sur l'affaire belge, ils ne m'ont jamais mentionné. Je suis devenue la journaliste. Ça, ils ne m'ont jamais pardonné. Mais c'est quand même très important parce que c'est la première fois que l'armée a vraiment caché le morceau. Et je m'en suis ouvert au général de Waller. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que vous m'avez parlé? Et cet homme m'a touché par sa sincérité. Il m'a dit, mais écoutez, est-ce que vous imaginez une chose pareille? Un petit territoire, comme la Belgique, survolé par des engins qui visiblement ne relèvent pas de notre technologie. Aucun des appareils, même les prototypes les plus extravagants, on avait envisagé à un moment, que ce soit les F-117, l'avion furtif, etc., n'est capable de ces performances, de voler aussi lentement, de passer ces exagérations fantastiques, de tourner à angle droit, de tourner à angle aigu, etc. Qu'est-ce que nous pouvons faire si nous sommes menacés par quelque chose? Il faut qu'il y ait une prise de conscience internationale pour que nous ayons les moyens, eh bien, d'enquêter sur le sujet, de prendre les moyens. Or, il se trouve de nous défendre ou de développer d'autres choses. Or, il se trouve que je me suis renseigné sur vous, vous n'avez jamais bidonné l'information, vous n'avez jamais cherché le sensationnalisme, vous êtes toujours très clean, etc. Et quand même, Match est le plus grand tirage francophone et a une audience mondiale à cause d'éditions internationales. Donc, vous étiez bienvenu quand vous m'avez appelé, c'est pour ça que je vous ai parlé.
Et il n'a pas été rétrogradé, lui, il a été
promu général.
Et ça, c'était donc il y a 10 ans.
C'était, oui, en 90.
Et l'objet était grand comme un terrain de foot, d'après ce qu'on en disait à l'époque,
oui.
Non,
oui, à peu près. Mais il faut dire que l'affaire belge, j'aime bien reprendre la terminologie de mon ami Bertrand Meyeuse, qui parle de l'anomalie belge, parce que ce qui s'est passé en Belgique, on ne l'a jamais vu nulle part ailleurs. C'est-à-dire, tous ces ovnis, on ne les a jamais vus se poser au sol, il n'y a jamais eu de phénomène d'enlèvement. Il y avait des phénomènes tout à fait extravagants, c'est-à-dire, un exemple qui m'a beaucoup frappé, vous avez un couple qui sort d'une maison, le mari et la femme. Le mari voit l'ovni au-dessus du toit, la femme ne la voit pas. Bon. Ce qui pose bien les phénomènes de perception de notre cerveau. On oublie trop, et ça moi je regrette que les ufologues ne s'intéressent pas au problème de la physiologie de la perception. Certains sujets ne perçoivent pas certaines choses, tandis que d'autres, qu'on appelle les médiums, en perçoivent bien davantage. Bon. Ces ovnis, qui étaient quelquefois 5 mètres, stationnaient 5 mètres au-dessus du toit d'un immeuble, et qui restaient 3 quarts d'heure. Et c'est un petit peu dérangeant tout ça. Hein. Alors, les aberrations de votre cerveau, vous ne pouvez pas trop vite en parler, dans la mesure où on prend des photos. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les photos que l'on prend ne correspondent pas exactement à ce que notre cerveau a vu. Alors là, c'est le professeur Messen qui a eu des bandes du visible. Si vous prenez le spectre de la lumière, vous avez au milieu une toute petite frange qui est ce qu'on appelle le visible. Et puis,
Le monde dans lequel on peut
voilà,
vivre.
Celui dans lequel je vous vois. Dans lequel je crois que vous existez. Et puis vous avez d'un côté ce qui est l'infrarouge, et de l'autre côté ce qui est l'ultraviolet. Et le rayon X. Bon. Nos instruments de nos télescopes, etc., avant ne travaillaient que dans la bande du visible. Maintenant, avec le développement de la technologie rayon X, infrarouge, etc., nos sondes et nos observatoires permettent d'observer ce qui était de l'ordre de l'invisible pour nos yeux, mais c'est pas parce que c'était invisible pour nos yeux que ça n'existe pas. Et c'est comme ça qu'on peut maintenant découvrir toutes les planètes extrasolaires. C'est-à-dire, il serait temps que les gens se disent et comprennent que la réalité n'est pas limitée à ce que nous voyons et à nos observations.
Eh bien, auditeurs, auditrices, soyez, on a affaire ce soir, comme souvent, sur cette antenne, j'espère, à une véritable pointure, en la personne de Marie-Thérèse de Brosse. La parapsie, bon, très bien. Les ovnis, là, ça nous donne des bases assez solides, semble-t-il, mais par-dessus tout, vous avez publié un bouquin en 95, qui était le résultat déjà de 6 ans de recherche, le phénomène des abductions. J'ai pas eu la chance de recevoir ce bouquin à l'époque.
C'est pas vrai. Si. Et vous l'avez toujours pas?
Mais non.
Oh, je suis une chienne. Promis, je vous l'envoie demain.
Donc, il va vous falloir nous résumer tout cela. Qu'est-ce qu'on entend par phénomène d'abduction?
Bon, alors, abduction de tout abduct, enlevé. On appelle traditionnellement les abductions, les enlèvements par les extraterrestres. Bon, moi je mettrais par les extraterrestres, entre guillemets. Je vais vous dire comment je suis venue à ça d'abord. Je suivais, par goût personnel, depuis des années, quand je dis depuis des années, ça devait être depuis que j'ai 10 ans, le phénomène des apparitions mariales, entre autres, des apparitions tout court, et m'intéressant beaucoup au dossier OVNI, je voyais se multiplier des cas d'apparition d'humanoïdes, et pour être franche, ça me dérangeait terriblement, j'arrivais pas à croire à ce que ces mystérieux ovnis soient pilotés par des êtres, etc. Vous savez, quand on commence à faire de l'ufologie, il faut mettre de côté tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on essaye de croire. Moi, je dois reconnaître que l'ufologie m'était d'une grande aide pour continuer à travailler dans le domaine de la physique, de l'optique, de l'angélologie, de la philosophie de la perception, etc. Enfin, c'est un domaine qui vous pousse à être de plus en plus intelligent. Et étant grand porteur à match, je me promenais dans le monde entier et j'entendais parler, parce qu'évidemment j'ai des curiosités entre guillemets suspectes, de choses très bizarres, surtout en Russie puisque j'ai vécu 6 mois en Sibérie. J'entendais parler de gens qui prétendaient être montés à bord d'une soucoupe volante, avoir fait des périples invraisemblables. Et tout ça, je trouvais ça très bizarre parce que la Russie de l'époque, qui était encore l'URSS, il n'y avait aucun contact avec la littérature occidentale et ne connaissait pas notamment toutes les affaires des grands contactés, Adamski, Van Tassel, Betouroum et compagnie, les grands contactés américains. Il me racontait ce que je considérais comme un petit peu des salades, mais moi, j'ai l'habitude de tenir mon journal intime depuis que j'ai 7 ans. Donc tout ça, je rentrais ça dans mon journal intime. Ça devenait de plus en plus énorme, et je voyais ce même genre d'affaires au Pérou, au Mexique, en Thaïlande, enfin dans tous les pays où j'allais, sauf en Europe. Et puis il se trouve que un chercheur américain, Bud Hopkins, qui depuis est devenu un ami, qui est un grand peintre et qui a eu le courage extraordinaire alors qu'il était dans tous les grands musées américains et qu'il avait une carrière internationale devant lui comme peintre, de s'intéresser tellement à ce sujet qu'il a abandonné la peinture pour se consacrer aux abductions. Il a fait un travail assez formidable. Mais au début, les gens qui s'intéressaient au sujet des abductions me semblaient totalement cinglés. Et je me suis dit, mon Dieu, mais ces Américains, ça va pas. Ils croient des histoires d'une naïveté. Il se trouve que je travaille en hôpital psychiatrique. Je travaille, par exemple, à l'hôpital de Maison-Blanche. J'ai l'habitude d'écouter les malades mentaux. Et c'est pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose, même s'il est convaincu de la véracité des faits qu'il dénonce, que ça correspond à une certaine réalité objective. Donc je me trouvais confrontée à un nombre de témoignages et j'étais persuadée que les chercheurs américains étaient complètement délirants de les prendre au pied de la lettre. Alors, je me suis dit, mais écoutez, je vais regarder ça de plus près. Et il y a eu au MIT, Massachusetts Institute of Technology, qui est à peu près ce qu'il y a de plus prestigieux, ce qu'il y a de plus prestigieux aux États-Unis. S'est tenu un congrès réservé aux chercheurs, aux spécialistes de la psyché, aux travailleurs sociaux, etc., consacré aux enlèvements. Je fais un reportage là-dessus dans Match. Ce serait trop long de vous raconter, j'essaie encore une fois d'être brève. Et à la suite de ce long document que je fais paraître dans Paris Match, j'avais rencontré la plupart des chercheurs importants qui travaillent sur le sujet, pas mal de possibles abductés, et je reçois un coup de fil des éditions Plomb qui me disent « mais c'est absolument passionnant, écrivez-nous un livre là-dessus ». Alors je précise que Plomb n'est absolument pas un éditeur de soucoupes volantes et d'invités de ce genre, et très fier de dire que c'est l'éditeur du
général de Gaulle.
Et je me dis, why not? Je veux prendre un congé sans solde à Match, qui me dit, non, pas question que tu prennes un congé sans solde, tu peux partir de moi. Et j'ai donné ma démission. Et dans ma tête, je pensais que j'allais travailler un an pour démontrer à quel point les Américains étaient fous et que tout ça, c'était du psychiatrique mal interprété.
Ça, c'était 92.
Oui. Et j'ai passé 6 ans. Alors j'étais absolument partout, j'étais dans tous les centres de recherche où on travaille, j'étais à peu près dans tous les pays du monde, j'ai fait cet énorme bouquin, et je suis en train de faire la suite qui maintenant dépasse les 12 000 pages, c'est absolument dramatique. Chaque fois que je me dis je vais sabrer, j'en rajoute.
Non, c'est une encyclopédie.
Mais pour être tout à fait franche, c'est un dossier dont j'aime pas parler en France, pour la bonne raison. C'est un sujet très mal connu, sur lequel on publie strictement n'importe quoi. C'est-à-dire les rares personnes qui publient sur le sujet, n'ont jamais vu un « abducté » entre guillemets possible. Ça, c'est le grand inconvénient d'Internet, où n'importe qui peut publier n'importe quoi. Moi, je peux très bien publier un texte dans Internet où je dis que je suis agrégé de mathématiques, que je parle le javanais et que j'ai 18 orteils, et ça sera recopié indéfiniment. Vous voyez, moi, j'appelle Internet l'autoroute de tous les dangers. Bon. Alors, malheureusement, les gens qui s'intéressent au dossier des abductions se contentent de faire du copier-coller avec les textes qui sont glanés de droite et gauche. Dans le meilleur des cas, certains vont assister à un congrès, ils vont entendre quelqu'un parler une heure et disent après ça, je connais le professeur machin, tu parles. Ils ont écouté le professeur machin parler pendant une heure. Bon. Alors donc, c'est un sujet qui est très mal connu en France, et qui suscite un nombre de délires absolument extravagants. À mon sens, il y a quand même certains moyens qui permettent de savoir si les gens ont, je ne dis pas ont été enlevés, mais je dirais sont passés par ce que j'appellerais l'expérience de l'enlèvement. Si vous voulez que je résume un petit peu le scénario archétypal de l'enlèvement, vous avez une personne qui est dans la vie absolument normale. Il peut être en train de conduire sa voiture, de faire de la pêche à la ligne sur une barque, ou d'être dans son lit. Il a l'attention généralement attirée par une lumière, pas spécifique. Et puis, il entre dans un état modifié de conscience, et d'un seul coup, il s'aperçoit qu'il n'est plus responsable de son corps. Il se sent paralysé, il ne peut plus crier, ni parler, ni appeler à l'aide. Et à sa grande horreur, il se sent lévité. Il décolle du sol. Et sans comprendre comment, il se retrouve dans une pièce, très bien éclairée, il ne voit jamais la source de la lumière. Étendu sur une table, avec des petits êtres, maintenant bien connus, c'est ce qu'on appelle les aliens. La plupart du temps, enfin, ces aliens, ils ont eu toutes les formes possibles. Maintenant, il y a une espèce de modus vivendi, c'est tous les mêmes. Ils ont une grosse tête avec des gros yeux noirs, etc., des corps frêles. Se livrent sur eux à des expériences à la fois douloureuses et humiliante. Hein. À cette heure-ci, on peut employer les mots. Hein. On leur prélève des fragments de muqueuse, de gorge. Ils sont sodomisés. Il y a énormément de cas. Whitley Strieber, le plus célèbre des abductés, dit bien qu'il ne pouvait plus s'asseoir après ces différentes expériences. On leur fait un examen mental du cerveau. C'est comme si tout ce qu'ils avaient comme pensée était complètement lu. On leur fait visiter la soucoupe, enfin l'engin. Ils font souvent un tour intersidéral entre les planètes. Et ils reviennent assez brutalement à Terre. En général, leur disparition, entre guillemets, a duré 2 heures. Mais il y a certains cas où la disparition a duré 5 jours. Et j'ai un cas d'américaine, par exemple, qui a disparu 21 jours. Elle était un peu dodue lorsqu'elle est partie. Mais enfin, là, l'enquête de police est très claire. Elle n'a jamais utilisé ses cartes de crédit. Elle n'avait pas un sou sur elle parce que elle a été, entre guillemets, enlevée au moment où elle sortait sur son balcon pour mettre des bouteilles de Coca-Cola dans son frigidaire. Elle n'est jamais rentrée à l'intérieur de son appartement. La copine qui habitait avec elle a été paniquée, on l'a recherchée. Les clés étaient à l'intérieur de l'appartement, ses chaussures étaient à l'intérieur de l'appartement. Elle a donc disparu pieds nus du 28e étage. Et elle est revenue dans l'état du Minnesota. Elle s'est retrouvée dans le Minnesota. Toujours pieds nus, ayant perdu quand même quelques kilos, vêtue d'une robe qui ne lui appartenait pas. Personne ne comprend très bien comment. Elle a appelé la police. Enfin, il y a quand même des cas qui sont excessivement suspects. On a beau gratter, on ne voit pas où est la supercherie. La plupart des cas d'abduction dont on parle, surtout dont on parle sur le net, sont, à mon avis, je ne suis pas un pape, des cabidons, parce que je peux vous dire, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, il est extrêmement difficile de faire parler un abducté. Ce sont des expériences terrifiantes dont on n'a pas envie de parler parce qu'on a l'air d'être un dingue, et surtout à l'époque où le marché du travail est, ce que vous savez, difficile, il n'y a pas de moyen le plus sûr de perdre son boulot que de raconter qu'on était enlevé par une soucoupe volante, États-Unis ou pas.
Qu'est-ce qu'on voit là actuellement sur le net, sur la webcam, pour ceux qui ont la chance évidemment de nous consulter sur ici-et-maintenant.com?
Alors ça, c'est un cas très intéressant. J'ai eu différents cas que je compte comme les plus forts. C'est le cas d'une abductée australienne qui est une fille d'un milieu social assez modeste qui, après ses entre guillemets enlèvements, a fait état de dons stupéfiants. Et pour moi, c'est Les conséquences et les modifications suite à l'enlèvement sont un des critères de véracité. De même qu'on a remarqué que les gens qui vivent les NDE, très souvent, sont totalement modifiés. Ils ont une recherche spirituelle différente, etc. Les enlevés ne sont plus les mêmes. Certains, et c'est beaucoup des cas avec lesquels je travaille, ont notamment des dons de dessin et de peinture assez stupéfiants, surtout chez des gens qui n'ont jamais touché un crayon. J'ai par exemple beaucoup travaillé avec un abducté américain que j'ai rencontré à Los Angeles, qui est mexicain d'origine et qui est conducteur d'autobus. Quand vous êtes conducteur d'autobus à Los Angeles, vous faites partie de la Ligue de l'Humanité. Hein. C'est vraiment le degré zéro de tout. Il n'a pas de voiture, il habite un bidonville, il a un bout de boulot. Maintenant, ce monsieur fait des études de mathématiques du niveau du doctorat, alors que 2 ans avant ses aventures, il était incapable de faire une multiplication par 3 sans se tromper. Bon. Il fait des dessins extraordinaires. Là, cette fille, cette Australienne, depuis ses enlèvements, fait des dessins stupéfiants parce que, ça pourrait entrer dans l'histoire de la métapsychie d'ailleurs, quand sa main commence à dessiner, c'est pas elle qui dessine, n'est-ce pas, c'est sa main lui échappe totalement, elle a remarqué que si elle regardait ce qu'elle faisait, son conscient stoppait l'opération de dessin. Donc, elle s'est installée, et je l'ai vue travailler comme ça chez moi. Elle s'est installée une sorte de planche sous sa table, comme ça elle ne peut pas voir sa main. Elle dessine, alors si vous voyez ses dessins, vous verrez qu'elle fait des cercles parfaits sans utiliser de crayon.
De compas. Mais un crayon, toutefois.
Toujours avec le même genre de crayon bille, elle travaille. Elle est très maniaque pour ça. Qu'elle fait des suites de lignes parallèles qui jamais ne s'entrecroisent. Et dans certains cas, le tressé est très, très, très précis, sans jamais regarder. Et pour elle, la façon la plus intéressante de travailler, c'est soit de répondre au téléphone, comme ça elle a son attention attirée quelque part, soit de regarder la télévision. Mais alors l'histoire est particulièrement drôle dans le cas de cette fille. Il se trouve que je travaillais sur un cas d'abducté anglais, très intéressant parce que le dossier de police est quand même très costaud. Est-ce que j'ai une minute pour en parler ou non? Vous me faire signe, hein, Didier, parce que moi je peux parler 1000 heures, vous me connaissez. Alors, je situe la famille plutôt fauchée, vivant dans le Kent. Le mari travaille de nuit et, pour arrondir ses fins de mois, fait de l'élevage de poneys dans sa petite maison à la campagne. Deux enfants, deux garçons. L'aîné a des histoires un peu bizarres et le second, surdoué à l'école, commence à être complètement rétif, et il y a un rapport avec ses dessins, commence à être rétif, ne veut plus aller à l'école, et surtout, refuse de dormir dans sa chambre, dit qu'il a peur. Et il ne veut pas dire pourquoi il a peur. Et chaque fois qu'il doit se coucher, c'est la même comédie. Alors, ses parents décident de le faire dormir dans le lit de la mère, comme ça l'enfant s'endort. Et quand le père rentre de travail à 5 heures du matin, on prend l'enfant dans ses bras qui dort, on le remet dans sa chambre et tout se passe bien. L'enfant, de temps en temps, revenait de l'école avec des bleus, des blessures, etc. Régulièrement, sa mère lui demandait, mais enfin, qui t'a battu? Et l'enfant ne voulait jamais rien dire. Un jour, la mère... Et ça, j'ai vérifié, parce que moi, les histoires, malheureusement, on ne me les raconte pas. J'ai la sacrée manie, ce qui me perd un temps fou, de tout vérifier. Et la mère reçoit un jour la visite de travailleurs sociaux qui lui disent « Mais pourquoi est-ce que vous battez votre fils ?»« Jamais j'ai battu mon fils, mais si. » Il arrive à l'école avec des bleus, etc. On fait venir le petit garçon qui dit « Non, non, maman ne me bat jamais. » « Et ton père ?»« Mais papa non plus. » Et la mère, triomphante, voyez bien que c'est à l'école. « Non, pas à l'école non plus. » Et il ne veut rien dire. Les jours passent. Un soir, alors que l'enfant est dans le lit de sa mère, la mère est seule, puis je peux dire que la mère, c'est un gros morceau. Elle doit faire 1m90 de tour de taille. Hein, c'est pas la petite chose. La mère est en train de lire dans son lit. Et la lumière s'allume, s'éteint. Elle va à sa lampe pour vérifier si c'est pas l'ampoule qui a un faux contact. À ce moment-là, la lampe s'éteint. Donc, elle sort sur le palier. Quand elle veut allumer la lumière, pas d'électricité dans la maison. Il n'y a plus d'électricité nulle part. Et au lieu de se dire, c'est peut-être le disjoncteur qui a sauté, elle est, on ne sait pourquoi, prise d'une véritable panique. Elle rentre dans sa chambre et dans le noir, elle s'enferme à clé. Et elle entend quand même des bruits bizarres dans la maison. Elle plonge sous ses couvertures, des choses extravagantes. Moi, je vous jure, j'ai une vie très mouvementée comme grand reporter dans les pays dangereux. Quand j'ai peur, ça m'arrive pas souvent, mais moi, il n'y a rien de tel que la peur pour empêcher de dormir. Elle, chose extraordinaire, elle s'endort comme une pioche. Elle est réveillée par des coups violents à la porte. Tout ça, je vais le publier dans mon bouquin, d'ailleurs. Les photos du personnage et tout. Des coups violents à la porte... Et la porte est enfoncée, et c'est le mari qui dit « Mais est-ce que tu es pas folle ?» Et la femme lui dit « Moi, tu veux pas savoir, il s'est passé des trucs, des machins, bref. » Et où est le garçon ?« Ah, bah, il doit être dans son lit en train de dormir. » On va dans la chambre du gamin, le gamin n'est pas dans son lit. On fouille toute la maison, le gamin n'est nulle part. Il faut savoir, moi j'étais dans cette maison, que la chambre du gamin est au premier étage. que les volets étaient fermés de l'intérieur, que la maison était fermée de l'extérieur par le père qui fermait toujours sa petite famille en partant. On se trouve dans le vrai mystère de la chambre jaune. Et c'est au bord de l'hystérie que la famille appelle la police. La police arrive, ça encore une fois j'ai vérifié, ça me prend un temps fou. Hein. Mes enquêtes, c'est hallucinant ce que ça me demande. Et pendant que la police arrive, on entend du bruit dans l'écurie, où il y a les poneys. Le père va à l'écurie, qui évidemment est fermée à clé. Il ouvre, devant les flics d'ailleurs, témoignage des flics, c'est quand même assez important. Il ouvre l'écurie, il y a les chevaux, les poneys, et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Les petits garçons, dans des couvertures qui n'appartiennent pas à la famille, qui dort. Bien. Les histoires de ce garçon sont excessivement compliquées parce qu'il est évident qu'il vit des expériences non ordinaires. Il était suivi par un psychiatre qui pensait au début que c'était de la mythomanie, etc. Il a des dons psychiques extravagants. Et nous allons venir à l'auteur des dessins. Moi, je vais les voir, mais j'ai dû aller les voir 10 fois avant de commencer à parler avec eux, parce que c'est bien évident. Les gens qui croient qu'un abducté va leur raconter leurs histoires, ou alors on vous raconte n'importe quoi, ne parlent que ceux qui veulent de la publicité. Les vrais abductés ne veulent pas de publicité. Leurs cas ne sont pas connus. Dès que les gens se répandent sur le net, etc., vous pouvez vous dire c'est suspect. Et pour vous donner un exemple des dons, entre guillemets, de ce garçon, j'étais chez lui cet été. Et je suis patrouillarde. Il est soi-disant enlevé toutes les nuits. Mais vraiment, j'étais contente de partir de cette maison tellement les phénomènes sont déplaisants. Les phénomènes de hantises, de poltergeist, d'objets qui traversent les murs, qui arrivent tout chaud, de chiens, ils sont gardés par des chiens des Pyrénées. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que les chiens des Pyrénées. Les chiens des Pyrénées, c'est des monstres, c'est des énormes choses que d'un seul coup, au milieu de la nuit, vous voyez faire le beau dans un état de catatonie totale et qui ne bouge pas. Ouais, c'est un peu, même pour des chiens de cirque, c'est quand même assez stupéfiant. Et moi, je veux prendre des photos de ce garçon. Et il me dit, non, tu ne prendras pas de photos de moi. Du coup, tu m'embêtes, je prendrai les photos, Et je prends mon appareil, l'objectif se bloque, une fois, deux fois, se bloque. Lui, il rigole. Je tourne de 30 degrés, je prends mon appareil et hop, j'ai la mer, avec ses 1m95 de tour de taille. Donc, l'objectif n'était pas bloqué. Je me remets sur lui, ça ne marche pas, 10 fois de suite. Je vous signale que moi, je prends des photos depuis 15 ans, c'est-à-dire pas depuis hier. Ça m'est jamais arrivé. Un appareil peut se bloquer. S'il est bloqué, il est bloqué. Mais bon. Je suis furieuse et je lui dis que tu n'es pas gentil. Je suis sympa avec toi. Bref, j'ai essayé de l'amadouer. On s'entend maintenant les meilleurs amis du monde. Ils m'embrassent comme du bon pain, etc. Mais ça a été long de l'amadouer. Puis un matin, il me dit, tiens, tu peux prendre une photo. Là, encore une fois, j'étais la reine des connes. Tellement heureuse de pouvoir prendre une photo de lui, je saisis mon appareil, je me dis, maintenant je vais pouvoir en prendre 15. Et clac, je prends une photo. Et quand je veux prendre une deuxième un peu mieux cadrée, il me dit, ah non, je t'avais dit une. Bon, pour vous donner un exemple, et je vous assure que je ne m'étais pas dit, je vais bloquer par PK mon appareil. Je vous livre ça comme ça. Bon. Ce garçon a des phénomènes hallucinants dans sa maison. Et parmi les phénomènes hallucinants, sa maison aurait été cambriolée. J'étais pas là, si ce n'est que j'ai juste vu les flics qui sont venus après ça faire les constats. Or, c'est très bizarre. Rien n'a été volé que les disquettes informatiques de la mère. Enfin, c'est ce qu'elle a décrété, hein, moi j'étais pas là. Et le journal intime du garçon. Qu'est-ce que c'est que son journal intime? C'est son journal d'abduction. Comment est ce journal intime? Eh bien, tenez-vous bien, il est écrit en écriture extraterrestre. Alors, je lui dis, écoute, montre-moi ton écriture extraterrestre, ça m'intéresse. Alors, il faut savoir que les gens qui travaillent sur ce dossier, mais qui travaillent vraiment, pas les petits picoreurs qui font flèche de tout bois, Nous avons des informations que nous ne publions pas. C'est très important pour vérifier la véracité des cas. À partir du moment où les indices, remarquez, les ethnologues font la même chose, les indices très particuliers sont révélés, il est bien évident que les faussaires peuvent s'en servir. Donc, dans les cas d'écriture extraterrestre, quoi que ce soit que vous mettiez derrière ce terme, il est bien évident qu'on ne les fait pas circuler. Et moi, je vois l'écriture, entre guillemets, avec laquelle il écrit. Je trouve ça très curieux, parce que ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle les textes qu'écrit cette jeune femme dont vous avez montré les dessins tout à l'heure. Alors je me livre à cette simple expérience, rien du tout, je suis dans le fin fond du Norfolk, je scanne, je demande à ce garçon, écris ceci, je lui donne un texte en français, enfin en anglais, et je lui dis, tu vas écrire ça en écriture extraterrestre. Et je l'envoie à quelqu'un, on verra bien si elle le comprend. Il écrit, je scanne, et j'envoie par mail en Australie, ce message en gribouillis extraterrestre. Quand je vous dis que j'ai de la chance, parce que on peut être devant son ordinateur, moi il m'arrive d'attendre 3 jours quelquefois avant de relever ma boîte quand j'en ai trop. Sauf que la fille était là, elle est absolument stupéfaite et répond immédiatement qui se permet d'utiliser mon écriture et que celui qui l'a écrit ne traduit surtout pas ça. Et suit 10 lignes en gribouillis. Alors, moi, je suis incapable de vous dire ce qu'elle a écrit. Le garçon prétend qu'il a compris. Nous en sommes là. Mais, là où l'histoire devient tout à fait étonnante, c'est que ce garçon dit, comment, il y a quelqu'un qui connaît mon écriture extraterrestre, il faut que je la rencontre. Ce garçon me disait, je ne pourrais jamais me marier, parce que ce que je vis est trop dur. C'est vrai que moi, j'ai assisté au phénomène qu'il vit, c'est insupportable. Insupportable. Et là-dedans arrive toute la ménagerie dans laquelle il vit, les chevaux, il y a des phénomènes absolument insensés, la mère et ses 250 kilos qui passent à travers le toit. Enfin, vous savez, moi, quand je sors de là, j'ai besoin de boire une bonne bouteille de vin blanc avec des copains, parce que c'est un peu dur. Il me dit, je vais absolument rencontrer cette fille. Or, pour une famille un peu modeste, elle est en Australie, c'est tout un tatouage. Je trouve que j'ai une très bonne amie qui vit en Australie. Et je lui dis, est-ce que tu ne pourrais pas loger pendant quelques jours des amis anglais? Cette fille a le cœur sur la main, me dit, mais bien sûr, pourquoi pas. Alors là, nous rentrons dans une histoire tellement effrayante que c'est presque pas racontable. Cette fille, Isabelle, c'est son vrai nom, Isabelle de Beaumont, d'ailleurs je peux dire son nom, vit en Australie. Moi je suis à Paris, à l'époque, et cette famille est en Angleterre. Et Isabelle étant une de mes grandes amies, on a l'habitude de s'envoyer des mails sans arrêt. Et elle me dit, figure-toi, c'est très très drôle, l'autre jour, pendant que je fais ma méditation, je vois un adolescent couvert de boutons purulents, qui apparaît dans ma chambre, un peu flou comme une apparition, avec un petit extraterrestre. Non mais vraiment, ça ne va pas ma tête, mais je peux le dire à toi parce que tu es une bonne amie. Peu de temps après, je reçois un mail des Anglais, et le garçon me dit, je ne savais pas si ça se passerait bien chez votre ami qui veut bien nous loger, parce que c'est quand même un peu spécial. Donc j'ai été encore astrale, tout à fait normal chez ces gens-là, bien sûr, voir si sa maison me plaisait, et si ça se passerait bien, eh bien c'est très bien, on va y aller. Bon, moi, je reçois les 2 mails de chaque côté, je vous dis très bien, moi je fais l'arbitre neutre, j'attends. Et donc le but était de rencontrer l'auteur de ces dessins. Mon ami va les accueillir à l'aéroport, avec un petit écriteau, avec le nom de la famille. Tout de suite, elle reconnaît l'adolescent boutonneux, lui, couvert de boutons, et de boutons bien. Ça lui est passé depuis, d'ailleurs. Enfin, il y a 2 ans, il était couvert de boutons. Et non seulement elle le reconnaît, mais il la reconnaît tout de suite. Pourquoi la reconnaît-il? Ben voyons, il avait été encore astral la visiter, c'est quand même la moindre des choses. Didier, on ne sourit pas. Il arrive dans sa maison, et bien sûr, il reconnaît, il rencontre l'auteur de ces dessins que vous avez montrés tout à l'heure à la caméra. Et ça, c'est le coup de foudre des deux côtés. Elle appartient bien meilleur milieu que lui. Elle a 5 ans de plus que lui. Elle est absolument ravissante parce qu'elle a été mannequin. Elle est végétarienne, etc. Lui, c'est un milieu archi-modeste. Il ne bouffe que des saucisses. Il se nourrit de façon absolument ignoble. Il se tient de façon invraisemblable. Il est intelligent. Il est d'une intelligence stupéfiante. Du jour où il se rend compte, il se reconnaît sans s'être jamais vu, il se tombe dans les bras et la rencontre s'est faite. J'ai eu une dizaine de personnes chez mon amie Isabelle. Ils sont partis. Bon, maintenant, en principe, ils vont se marier. Du coup, il a perdu tous ses boutons. Voilà la petite parenthèse gay pour vous montrer que dans le dossier des abductions, ça c'est un des nouveaux schémas qui n'apparaissait pas il y a quelques années. On entend toujours la même bêtise. Moi, je suis un petit peu lassée de voir ce que les gens publient sur les enlèvements. On vous dit les enlèvements se produisent toujours selon un scénario monolithique. Moi, je peux vous dire que depuis 25 ans que je travaille le dossier, il évolue considérablement, d'ailleurs comme évoluent tous les mythes qui se constituent. Fini l'époque où les abductés étaient invités à faire un grand tour des planètes en soucoupe volante. Ça s'est terminé. La plupart du temps, ils sont enlevés de leur lit, d'ailleurs. Fini l'époque où le capitaine du vaisseau leur tient des grands discours. Maintenant, ils sont enlevés, on les sonde, on leur prélève des machins, on continue de faire tous les examens. Mais enfin, le scénario est complètement différent.
Est-ce qu'ils ont les marques
Oui, mais alors les marques, c'est quand même très, très compliqué, Didier. Effectivement, il y a un dossier de marque. Il est quand même très difficile de dire si un jour, en prenant votre douche, vous découvrez que vous avez une cicatrice sur le genou. Ben, peut-être que cette cicatrice, vous l'avez toujours eue sans y prêter attention. À ce moment-là, vous l'avez. Il est très difficile de dire qu'une marque, on ne l'avait pas. Mais ce qui est très intéressant, par contre, ce sont quand les marques apparaissent sur les bébés. Personne au monde ne connaît mieux le corps d'un bébé que sa mère qui le lave amoureusement tous les jours. Or, de temps en temps, vous avez des marques, et ces marques apparaissent comme des cicatrices, déjà cicatrisées, c'est-à-dire il n'y a plus les croûtes, les cicatrices. Or, il est bien évident qu'une cicatrice n'apparaît pas comme ça. Moi, je laisse le dossier très ouvert, contrairement aux gens qui disent « mais oui, on est enlevé par les extraterrestres », je laisse très ouvert et je continue à plancher là-dessus.
Bien, le standard, lui aussi, va être ouvert. Je suis très curieux de savoir ce que les auditeurs et auditrices de la station pensent de ce témoignage, à condition, évidemment, d'avoir écouté depuis le début le récit de Marie-Thérèse de Brosse, notre invitée ce soir. Par conséquent, ne tardons pas davantage, ouvrons le standard 01 45 75 44 44 ou 45 deux fois.
Nous avons Patrick avec nous. Patrick, bonsoir.
Je voudrais juste faire une remarque. Je me demande comment se fait-il que par votre livre et votre premier article dans Paris Match que vous avez fait, il n'y a pas plus de développement au niveau des médias et au niveau même de l'acceptation totale du des extraterrestres qui existent.
Ah bah écoutez, je vous dis, il y a quand même quelque chose de très important, c'est qu'il va y avoir la semaine prochaine un grand congrès au CNRS. Le CNRS, c'est pas exactement une petite association d'animés. où je présente le dossier des enlèvements, ce qui va être une, quand même une grande première, les enlèvements au CNRS. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une ouverture là.
Oui, ça se trouve bien qu'il y a une ouverture, oui, tout à fait.
Et quand même une ouverture pour une grande porte, hein, parce que c'est pas une petite sous-faculté parallèle, une petite association qui, parce qu'elle se fait héberger à la Sorbonne, dit que c'est une association de la Sorbonne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein.
Non, j'ai très bien compris. Donc ça répond à ma question. Et pour vous, le genre, comment dire, la récolte d'informations sur ce sujet-là date depuis combien de temps? Depuis les années 70 ou avant?
Vous parlez des enlèvements?
Oui, en fait.
Non. L'information a commencé, je vais vous dire. C'est un sujet qui a tellement perturbé les ufologues. Hein. Parce que les ufologues, ils voulaient bien au début imaginer qu'il y avait des vaisseaux venus d'autres civilisations qui venaient nous visiter. Bon, tant que c'était ce qu'on appelle l'hypothèse extraterrestre, hein, tous les boulons, c'était des trucs, des véhicules durs, bon. À partir du moment où il commençait à y avoir des témoignages d'humanoïdes, et il y en a eu très vite beaucoup, les ufologues américains, parce que l'association américaine était énorme, hein, vous n'imaginez pas l'importance des associations américaines, ont censuré ce type d'information pour ne pas se décrédibiliser. Le but des ufologues américains, c'était de faire prendre conscience aux autorités et à l'armée d'une éventuelle menace extraterrestre, ou tout au moins d'une éventuelle présence extraterrestre autour de la planète. Ils se disaient, on arrive déjà avec toutes nos observations de machines, parce qu'ils croyaient que c'était des machines à l'époque, dont les effets physiques sont constatés, c'est-à-dire ça arrête les moteurs, donc il y a une influence électromagnétique, ça laisse des traces au sol, c'est d'ailleurs en France qu'on a eu le plus beau cas de traces au sol et somptueusement investigué scientifiquement, c'est l'affaire de Trans-en-Provence. Déjà, il y a tout ce dossier-là, si en plus on parle d'humanoïdes et d'extraterrestres, jamais l'armée ni le gouvernement ne voudront entendre parler de nous. Le premier cas, vraiment bien investigué, d'enlèvement, est celui de Betty Barnehill, qui date de 1961. Je pense que vous connaissez ce cas, non?
Non, absolument pas. Alors, c'est au début.
C'est un cas très intéressant et qui est devenu, si vous voulez, le cas fondateur. Il y a eu deux autres cas avant, mais on fait partir les enlèvements de ce cas-là. Betty et Barnehill étaient un couple mixte, c'est-à-dire Betty était blanche, Barney était noir. Ils sont tous les deux en voiture. Ils rentrent chez eux du Canada, ils habitent dans le Maine. Et à un moment, ils voient une lumière dans le ciel, une grosse lumière qui semble suivre leur voiture. Barney a une paire de jumelles dans son tableau de bord. Et il prend la jumelle et il observe. Il est complètement fasciné. Il arrête la voiture. Encore une fois, je vous compacte très vite ce cas juste pour que vous voyez l'importance. Il arrête sa voiture et l'OVNI, enfin la chose, semble s'arrêter et se poser sur la route un peu plus loin. Et sans écouter les glapissements d'horreur de sa femme, Barney sort de la voiture. Il court vers l'OVNI. Sa femme hurle, gna gna gna. Ils oublient tous les deux ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle le missing time, c'est-à-dire c'est un épisode amnésique, on ne se souvient plus de rien. Ils se retrouvent au volant de leur voiture, complètement déstabilisés, un peu groggy, la voiture fait des bruits un peu bizarres. Et quand ils reprennent la route, ils s'aperçoivent que 2 heures de leur temps ont disparu. Ils reviennent chez eux, mais vous allez voir que la suite de cette chose est très intéressante, sans aucun souvenir. Mais ils sont perturbés tous les deux par de tels cauchemars qu'ils décident d'aller voir un psy. Leur entourage leur dit, oh, c'est peut-être parce que c'est un couple à problème, c'est un couple mixte, en 1960, il y avait moins de mariages interraciaux, noirs et blancs. Donc ils vont voir un psy qui n'est pas n'importe qui, le docteur Simon, qui est un grand psychiatre. Et quelle idée de les mettre tous les deux sous hypnose, séparément, pour les faire régresser dans le temps apparemment oublié. Et tous les deux, séparément, vont raconter exactement la même histoire dont ils ne se sont jamais parlé, parce qu'au niveau conscient, ils ne s'en souvenaient pas. C'est-à-dire qu'ils se sont trouvés à l'intérieur d'un vaisseau extraterrestre, avec tout un équipage, qu'ils ont fort bien décrit. Ils ont subi un examen médical. Alors, il y a des tas de détails loufoques, parce que dans toutes les histoires d'OVNI, il y a des détails loufoques. Par exemple, il semblerait que les aliens, prenons les mots utilisés, aient été incroyablement surpris en découvrant que Barney avait un dentier. C'est-à-dire qu'en examinant l'intérieur de la bouche de Barney, il pouvait enlever les dents, alors qu'en examinant la bouche de Betty, il ne pouvait pas enlever les dents. Alors ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et Betty leur fait tout un petit cours sur le vieillissement. Il faut un examen, y compris sexuel, de Betty et de Barney, puisqu'ils font un prélèvement de sperme de Barney. Ils font une laparoscopie à Betty, vous savez, ce petit examen qui consiste à vous enfoncer une aiguille dans le nombril, une sorte d'un test de grossesse, si vous voulez. Et Betty, qui a quand même son fort caractère, leur dit... donnez-moi une preuve, parce que quand je raconterai ça, personne ne nous croira. Et les aliens leur répondent, vous n'aurez rien à raconter, parce que vous vous souviendrez de rien. Ça fait partie de tous les enlèvements. On leur dit toujours, vous vous souviendrez de rien. Et Betty insiste, et le capitaine du vaisseau leur sort, alors qu'on est soi-disant dans un vaisseau intergalactique, on doit avoir des écrans... un diode, enfin des choses complètement modernes, leur sort un vieux rouleau de parchemin qui monte une carte du ciel et lui dit, est-ce que tu sais où est la Terre, là? Alors Betty, qui ne sait absolument pas ce que c'est qu'une carte du ciel, dit, ben non, je ne sais pas où est la Terre. Alors comment veux-tu que je t'explique d'où on vient si tu n'es même pas foutu de lire une carte céleste? Or, la chose qui est très amusante, c'est que tous les deux, sous hypnose, vont dessiner la même carte, avec les mêmes points. Alors là, il y a toute une controverse sur l'explication de la carte, elle serait trop long. Mais ça a été le premier cas solidement investigué. John Fuller a fait un bouquin qui a dû paraître simplement à la fin des années 70, si j'ai bonne mémoire, qui s'appelle The Interrupted Journey, le voyage interrompu. Mais c'était le blackout total sur ce genre de cas. Il y a eu un autre cas qui a été également très très bien fouillé. C'est un cas brésilien d'un jeune paysan sur son tracteur.
J'ai déjà entendu, oui, celui-ci.
Voilà. Bon, bien. Et vous voyez la chose. Ce jeune paysan, il est devenu avocat du jour au lendemain, pratiquement. Hein. Ce jeune paysan inculte devient avocat. Il y a quand même des choses assez curieuses dans le dossier. Mais au début, les ufologues, c'était eux qui ne voulaient pas publier l'information. L'information a commencé à circuler grâce, je ne suis pas du tout d'accord avec ses conclusions, mais ça ne fait rien, grâce aux travaux fantastiques de ce pionnier qui a été Bud Hopkins. C'est-à-dire à partir des années 80.
D'accord, donc c'est normal. C'est normal dans un sens qu'au bout de 20 ans, puisque c'est à peu près le temps que ça met pour des études scientifiques à arriver dans le cercle de Monsieur Tout-le-Monde.
Voilà. Enfin, je vous signe que mon bouquin en France, il est paru en 95. Hein, il est sorti en poche en, je ne sais pas, 96-97, mais il est sorti quand même en 95.
J'ai lu,
oui. Il était sorti chez Plon, il a été publié chez J'ai lu, oui.
J'ai une autre question à vous poser. Ça fait quelques fois sur Radio Ici Maintenant que j'entends parler des humains ou les humiques.
Des humites, oui.
Des humites.
Oui.
Vous faites un rapprochement avec ceci parce que c'est aussi une histoire un peu...
Écoutez, alors, moi, je vais être tout à fait franc, je suis très mal à l'aise avec l'affaire Humeau. J'ai énormément travaillé sur l'affaire Humeau, notamment avec un philosophe avec lequel j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle Raymond Abelliot, parce qu'on essayait de voir s'il y avait des concepts intéressants au point de vue soit logique, soit métaphysique, qui ne seraient pas compatibles avec ce qu'un cerveau humain pourrait imaginer. Nous n'avons rien trouvé d'intéressant et je suis obligée, là je tire mon chapeau comme je l'ai fait d'ailleurs à l'antenne, aux travaux de Jean Paulion. Jean Paulion très gentiment est venu me voir parce qu'il ne savait pas où publier son manuscrit. J'ai lu son manuscrit qui m'a tout à fait passionné, qui m'a donné envie de me replonger dans l'affaire Humeau. Mais encore une fois, cette affaire, il parle d'ailleurs des enlèvements un petit peu, hein, le dossier Humeau parle des enlèvements. Mais je suis un peu mal à l'aise avec cette affaire, même si, grâce à Jean Paulion, elle a acquis maintenant un bon début de crédibilité.
D'accord, donc pour vous, même si ça fait... Parce que c'est dingue cette histoire de 30 ans de documents qui arrivent sans cesse, et qui ne sont pas des documents, c'est débouté à chaque fois. C'est assez hallucinant, quoi.
Alors, c'est tout à fait hallucinant, et c'est pas explicable par un canular. Ça, déjà, c'est évident. Un canular, ça doit de toute façon profiter à quelqu'un à un moment quelconque. Hein.
Oui, voilà.
Un canular gratuit qui dure aussi longtemps, bah, ça serait une grande première pour les business. Hein.
Il y a enfin quelqu'un qui n'a pas envie de se montrer.
Eh oui.
Ben, je vous remercie et je continue à vous écouter.
Merci d'avoir appelé, Patrick.
Marie-Jeanne, bonsoir.
Bonsoir, madame Marie-Thérèse Bros.
Bonsoir.
Mais écoutez, j'ai hésité avant d'appeler. Bon, je vais vous dire, c'est assez... Moi, j'ai du mal à y croire. J'ai encore du mal à y croire, mais c'est tellement... Il y a tellement d'analogies avec ce que vous dites que je me dis, ben, c'est pas possible, j'ai pas pu... Bon, c'est un rêve, en fait. Hein. Moi, je l'identifie comme un rêve.
Très souvent, ça paraît comme un rêve.
Oui, alors là, c'était mon dernier, qui maintenant a 19 ans. À l'époque, il était tout bébé, il avait 2 ans à peu près. Pas tout à fait 2 ans. Et donc, c'était la nuit. Ah non, il était un peu plus vieux, il avait 3 ans et demi, voilà. Oui, quelque chose comme ça, enfin bref. Et la nuit, je fais le rêve suivant. C'est pour ça que je suis un peu stupéfaite, parce que ça ressemble vraiment étrangement... j'ai du mal à y croire, franchement, mais bon, je vous raconte quand même. Je fais le rêve, tout simplement, que je suis... Je suis emmenée quelque part, où je peux pas vous dire. Et je ne vois pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a des gens qui sont autour de moi. Pareil, alors là, il y a la table. Et je vous assure que je n'ai pas de littérature qui aurait pu m'influencer.
Ça me plaît beaucoup. Si vous n'avez rien lu, c'est ce qui est vraiment mieux maintenant, c'est que le dossier est pollué parce que l'information circule.
Je ne suis pas une fan de cette littérature. Je suis curieuse comme tout le monde, mais sans plus, quoi.
Oui.
D'ailleurs, j'aimerais bien avoir un de vos livres quand même pour me faire une idée quand même.
Écoutez, ça s'appelle Enquête sur les enlèvements extraterrestres et c'est paru, ça ne vous ruinera pas, en édition J'ai lu.
Oui, mais alors il vaudrait mieux, si je peux me permettre, que Marie-Jeanne témoigne à l'oreille de Marie-Thérèse de Brosse avant de lire son bouquin.
Oui, c'est pour ça que je tiens à ce que vous me donniez un petit peu votre témoignage avant.
Voilà,
hein.
Vous pensez ce que vous voudrez. Moi, je vous le livre comme ça, tel que...
Là, je ne suis pas là pour
penser.
Alors,
c'est tout bête. Ça ressemble terriblement à votre histoire. C'est pour ça que ça me fait bizarre. Bon, enfin, bref. Je dormais et subitement, je me suis retrouvée dans un espèce de... Oui, on peut dire... je ne sais pas comment le qualifier. Il y avait des... J'étais sur une table, effectivement. C'est pour ça
et qu'est-ce qu'on vous faisait?
Je trouve ça presque drôle.
Vous êtes anonyme à la radio, qu'est-ce que vous faisiez?
Alors, écoutez, il y avait des gens autour de moi. Ah, ça, je ne pourrais pas les décrire, hein, incapable
ça
de décrire.
Ça ne fait rien.
Je sais qu'il y avait des gens, et à un moment donné, au niveau du nombril, qui me posent comme une espèce de... comme un tuyau, je ne sais quoi, quelque chose qui ressemblait à ça. Mais je ne devais pas être complètement...
Nue.
Avoir complètement tous mes esprits. Enfin, si, j'avais mes esprits, mais je...
Vous ne pouviez pas réagir.
Il y a des choses que je ne discernais pas.
Oui.
Hein. Et puis, j'ai compris que c'était... j'ai compris, je ne sais pas comment je l'ai compris, est-ce qu'on me l'a fait comprendre, que c'était une recherche ou un prélèvement qui s'effectuait en vue de quelque chose de génétique ou quelque chose dans ce genre-là, vous voyez.
Oui.
Et puis, à un moment donné, je leur dis, mais j'ai eu peur. J'ai eu une sensation de peur, j'ai eu peur d'avoir mal. Et j'ai dit, mais je vais avoir mal. Vous allez me faire mal.
Voilà, voilà. Désolé pour Marie-Thérèse de Brosse. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. Pourquoi ? Bah, parce qu'on est censuré de 19h à 23h et de 7h à 14h. Marie-Thérèse de Brosse était notre invitée mardi dans le cadre d'une émission qui a eu lieu de 23h20 à tard dans la nuit. C'était la première partie aujourd'hui dans l'émission Santé Spiritualité. Demain, vous entendrez la deuxième partie de cette émission entre 16h et 17h30. Et puis dimanche, la toute fin entre 15 et 16h. En attendant, vous pouvez nous suivre 24h sur 24 sur Internet. En tapotant ici et maintenant.com 24h sur 24, alors que je vous le rappelle, notre permission n'est que de 14h à 19h et de 23h à 7h du matin sur la bande FM. À partir de 23h ce soir, vous retrouvez Tristan avec son émission Entrer dans le rêve, des rêves que vous ne comprenez pas. Et bien Tristan vous les explique. Et puis un petit peu plus tard dans la nuit, c'est Jean-Claude pour de l'antenne libre, et ce jusqu'à 7h du matin. Nous vous souhaitons à tous un excellent début de soirée. C'est le bon moment pour aller prendre l'air. On va vous mettre de la musique.